Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchige. Dans Grande Interview aujourd'hui, Honoré Missenga Kalala reçoit Abdulaziz Thioy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme BCNUDH en Syrie. Il s'exprime sur le rapport annuel 2021 sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo que son institution a publié jeudi 27 janvier 2022. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Abdulaziz Thioy, bonjour.
Bonjour.
Directeur, le Bureau conjoint a publié jeudi 27 janvier le rapport 2021 sur la situation des droits de l'homme en RDC. D'abord, quels sont les types de violations et atteintes documentées dans ce rapport?
Merci beaucoup. Bonne année aux auditeurs de Radio Okapi. Donc, en 2021, le Bureau a documenté 6989 violations des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ce qui représente une moyenne de 582 violations par mois. Il s'agit d'une diminution de près de 12% par rapport à l'année 2020, soit une tendance inverse à celle observée l'année précédente, qui avait enregistré une augmentation de 21%. Les types de violations les plus rapportées au cours de l'année écoulée sont les violations du droit à la vie, pour 1335 violations qui ont fait 3012 victimes. Les violations atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne, également les violations et atteintes au droit à l'intégrité physique, mais aussi les violences sexuelles, y compris celles liées au conflit, contre 528 femmes, 226 enfants et 8 hommes. Suivent les violations du droit à la propriété, ensuite les violations en lien avec l'espace démocratique pour lesquelles nous avons enregistré 472 cas avec un impact négatif de l'état de siège sur l'espace démocratique évidemment.
Qui sont les auteurs de ces violations et atteintes aux droits de l'homme?
Parmi les auteurs par catégorie, les agents de l'État évidemment, notamment dans les provinces affectées par les conflits où nous avons des militaires, les agents de la PNC, de l'ANR et de plus en plus des autorités provinciales. C'est une tendance que j'avais notée, que j'avais soulignée l'année dernière, mais qui se poursuit et tend de plus en plus à se répéter. Vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes activistes de la société civile dans des provinces, notamment les activistes de la Lucha, qui sont arrêtés, détenus en nombre assez important, et certains condamnés à des peines assez sévères, ce qui pose un peu problème. Il en va de même aussi pour des activistes en Bandaka, également dans le Sud Kivu et ailleurs, qui sont arrêtés sous des fallacieux et détenus, avec des recours dilatoires qui ont de façon très claire pour objectif de la part de leurs auteurs, notamment les autorités provinciales, de les maintenir dans les liens de la prévention, c'est-à-dire les priver de leur liberté, ce qui est quand même assez inacceptable et qu'il faut souligner. Je pense qu'il est important ici de demander véritablement qu'il s'agit là d'un indicateur important de l'ouverture démocratique. Et les autorités provinciales ne peuvent pas aller ramer au contre-courant de l'engagement pris par la plus haute autorité de ces pays devrait de façon inlassable à ouvrir l'avantage de l'espace démocratique et de respecter les droits et libertés, tandis que sur le terrain, de plus en plus, nous avons des autorités provinciales qui tendent à essayer de museler et s'attaquer aux activistes de la société, dans le cadre de leurs activités légitimes. Il y a aussi parmi les auteurs les membres des groupes armés. Les plus importants, comme vous le savez, évidemment, ce sont les Nyatura, suivis des ADR. Les Nyatura posent un sérieux problème, notamment dans le Nord Kivu, et les Nyatura sont suivis, toutes fonctions confondues, les Nyatura, suivis des ADF et divers groupes Maïmaï, dont les APCLS, et également le NDC, rénové, ce sont les seuls qui sont restés sur le terrain aussi, mais également les Maïmaï Mazembe au Nord Kivu. En Ituri, nous avons la CODECO, qui pose de sérieux problèmes. Vous avez suivi les attaques répétées contre les camps de déplacés, mais également contre les casques bleus des Nations Unies, mais aussi les attaques répétées qui tendent beaucoup plus à s'étendre à beaucoup de zones. Nous avons aussi le groupe armé Zahir, ainsi que les FPIC en Ituri, et sans oublier les ADF qui viennent immédiatement après les Nyatura en termes d'atteinte aux droits de l'homme, aussi bien au Nord Kivu qu'en Ituri, ainsi que les Raia Mutomboki dans le Sud Kivu, les Gumino, les Buganeho, les Malaika, les Maïmaï Malaika, les Maïmaï Yakutumba au Sud Kivu et principalement aussi les Maïmaï Apanapale dans le Tanganyika qui posent de sérieux problèmes à la protection des civils et l'intégrité physique, mais aussi à la vie des paisibles citoyens congolais.
Directeur, vous êtes étendu longuement sur la situation qui prévaut dans les zones en conflit. Qu'est-ce qu'on peut retenir des zones de l'Ouest, notamment ici à Kinshasa, en termes de violations et atteintes aux droits de l'homme?
Alors, dans les zones qui ne sont pas affectées par les conflits, ce que nous avons le plus noté, ce sont ce qu'on appelle des atteintes, des violations du droit à la liberté et à la sécurité, notamment des arrestations et détentions arbitraires qui, comme vous le savez, pour beaucoup sont liées à l'espace démocratique. Notamment, vous avez des arrestations de membres de la société civile, comme je l'ai indiqué, pour les provinces non affectées par le conflit. Et d'ailleurs, si vous avez bien regardé, il y a une amélioration générale dans les provinces non affectées par le conflit pour ce qui est des droits de l'homme, mais nous avons le Lualaba, la province de Lualaba qui sort de l'eau, et la province de la Tchopo, ainsi que celle du Kwilu, où nous avons effectivement noté beaucoup de restrictions et de violations du droit à la liberté et à la sécurité. Il y a eu aussi, je ne peux pas ne pas le souligner, des atteintes graves à la vie, au droit à la vie, suite à un usage excessif de la force à l'aide d'armes létales par des officiers de maintien de l'ordre, notamment de la paix. C'est quelquefois des militaires. Certains ont fait l'objet, évidemment, d'une procédure de flagrance, mais cette tendance est très, très inquiétante et continue d'attirer l'attention et doit définitivement recevoir une attention et un traitement approprié.
On dit souvent que Kinshasa est le miroir de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Kinshasa particulièrement?
Alors, à Kinshasa, évidemment, comme je l'ai indiqué, il y a eu des velléités de répression de ces manifestations, évidemment, et je pense que l'autorité a bien compris l'importance d'ouvrir l'espace pour favoriser une expression libre des droits et libertés, parce qu'évidemment, il y va de la paix et de la stabilité sociale. C'est extrêmement important et c'est un indicateur très important pour les autorités. Je rappelle encore une fois, je renvoie tout le monde aux engagements pris par le président Tshisekedi. Il est important que les agents de l'État aident et essaie de s'aligner sur ces engagements-là qui ont été pris en essayant, dans la mesure du possible, de s'assurer effectivement de l'exercice libre des droits et libertés. Alors, il y a eu, évidemment, je peux revenir sur la question des prisons où on a réellement une surpopulation carcérale à Kinshasa, même s'il y a des efforts qui ont été faits par la nouvelle ministre de la Justice qui tend plus ou moins à améliorer les conditions de détention. Il y a aussi des prises de position assez importantes du ministre des Droits Humains concernant notamment tout ce que j'ai noté, les cas d'usage excessif la force, où effectivement, il y a eu, suite à ces interventions, il y a eu effectivement des procès en flagrance. Mais il nous faut aller plus loin, parce que véritablement, il faut prévenir et traiter à la racine ces manquements-là qui ont été notés et qui portent des atteintes très graves à la vie des individus ou à leur intégrité physique, notamment la perte de la vie de jeunes gens, de jeunes individus, suite à des usages d'armes létales en ville, notamment au niveau de Kinshasa, est très, très inquiétant. Évidemment, il faut continuer, je pense, de façon importante à s'assurer effectivement du niveau de professionnalisation des forces de sécurité des dépenses, notamment de la PNC. Mais cela ne peut se faire que dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la réforme du secteur de sécurité, notamment par un niveau de recrutement qui est basé sur le mérite, effectivement, et des renforcements des capacités, ainsi que s'assurer effectivement que les agents de maintien de l'ordre reçoivent l'équipement adéquat pour pouvoir maintenir l'ordre et le contrôle des foules. On ne maintient pas l'ordre, on ne contrôle pas les foules avec une Kalachnikov. Je l'ai dit, je l'ai répété et je le réitère encore une fois.
Mr. Zapranito,
Radio Okapi. Grande interview.
Dans grande interview aujourd'hui, Honoré Missenga Kalala reçoit Abdulaziz Tioy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme BCNUDH en sigle. Il s'exprime sur le rapport annuel 2021 sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo que son institution a publié jeudi 27 janvier 2022.
Concernant les violences sexuelles, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2021?
Alors, concernant les violences sexuelles, nous avons documenté une diminution des cas de violences sexuelles liées au conflit, je précise bien. Donc, je parle pas des violences basées sur le genre, qui sont beaucoup plus larges. Je parle des violences sexuelles qui sont liées au conflit. Le travail que nous faisons est lié au mandat spécifique reçu du secrétaire général à travers sa représentante spéciale sur cette question-là, et pour lequel il y a un engagement, un communiqué conjoint qui a été signé par la République démocratique du Congo, et un addendum a été aussi signé en novembre 2019. Donc l'idée, nous avons eu une diminution de 21% des cas de violences sexuelles liées au conflit, comparé à 2021. Ces violences sexuelles ont eu lieu dans le cadre de représailles exercées par des groupes armés. Ce sont des groupes armés qui sont les plus grands de ces violences sexuelles liées au conflit contre les civils, ou non-paiement de taxes illégales, de participation ou de non-participation à ce qu'on appelle le travail forcé, notamment les travaux communautaires, ou simplement soupçon de collaboration présumée avec d'autres factions armées, ou avec les forces de sécurité, ou lors d'enlèvements et d'attaques sur des sites des personnes déplacées et des zones minières. Donc ça a été noté, notamment dans le Nord Kivu, une partie de l'Ituri, mais également dans le site Kivu et dans le Tanganyika. L'insécurité due à la présence des groupes armés dans autour des établissements de santé santé, le mauvais état des routes, le manque de moyens logistiques ont pu freiner effectivement la possibilité pour les victimes de violences sexuelles d'avoir accès à des soins appropriés dans le délai de 72 heures. Donc c'est un fait qui a été noté au cours de l'année et auquel effectivement des recommandations ont été formulées pour essayer d'améliorer ça. Mais tout cela est tributaire de l'amélioration de la sécurité sur le terrain pour évidemment s'assurer effectivement que les victimes, d'abord que les civils ne puissent plus être victimes de l'insécurité, mais aussi de pouvoir vaquer librement leurs occupations sans peur ni risque d'être attaqués dans le champ, sur les routes, en allant puiser de l'eau ou autre.
Dans le volet lutte contre l'impunité, est-ce que vous avez remarqué au cours de l'année dernière des progrès?
Alors, nous avons noté quand même une évolution encourageante qu'il faut mettre à l'actif des autorités congolaises, notamment des autorités judiciaires. Nous avons soutenu beaucoup de ce qu'on appelle les missions d'enquête conjointes, dirigées par le parquet, les parquets civils et militaires, hein, mais pour beaucoup c'est des parquets militaires. Mais également, nous avons soutenu beaucoup d'agences foraines, ainsi que d'autres, hein, nous ont pas laissé dans ce domaine-là. Donc, pour l'année 2021, au moins 345 militaires FARDC ont été condamnés, 115 agents de la PNC, 149 combattants des groupes armés pour des actes constituant des violations des droits de l'homme. Évidemment, c'est un progrès notable qu'il faut encourager, souligner, consolider et renforcer. Mais comme on a l'habitude de le dire, vu le nombre très élevé, il est important effectivement qu'on puisse monter davantage, aller un peu plus loin pour s'assurer d'un niveau réel de lutte contre l'impunité qui puisse atteindre tous les niveaux, y compris les niveaux de commandement. Alors, nous avons, comme je l'ai dit, soutenu 12 missions d'enquête conjointe, 16 audiences foraines. Donc, les défis en termes d'accès à la justice aux conditions de détention persistent et nécessitent des moyens conséquents. En termes de lutte contre l'impunité, je ne peux pas ne pas évoquer les progrès importants qui sont en train d'être menés en ce qui concerne la justice transitionnelle avec le concours des Nations Unies, principalement du Bureau conjoint des Nations Unies. J'espère que le ministre des Droits Humains ne m'en voudra pas. Il vient d'annoncer le lancement des consultations populaires qui vont concerner les 26 provinces de la RDC par Kalemi le 9 durant la première semaine du mois de février sous l'égide du chef de l'État. Donc, pour dire qu'il y a quand même des étapes assez importantes qui sont en train d'être posées, des jalons importants qui sont en train d'être posés qui permettront véritablement de lutter efficacement contre l'impunité, même si le chantier est immense. We'll be right back.
d'interview aujourd'hui, Honoré Missenga Kalala reçoit Abdulaziz Thioy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, BCNUDH en sigle. Il s'exprime sur le rapport annuel 2021 sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo que son institution a publié jeudi 27 janvier 2022.
Dernière question, directeur. Nous sommes encore au début de l'année. Quelles sont les grandes recommandations de votre bureau à la suite de toutes ces tendances sur la situation des droits de l'homme en RDC?
Alors, évidemment, lutter contre l'impunité reste une priorité majeure. Et en cela, j'enclenche en termes de continuité avec ce que je viens de dire. Il nous faut renforcer davantage le travail de la justice en général. La justice en général. Il est vrai que l'état de siège pose un problème aujourd'hui en ce que les compétences répressives des juridictions civiles ont été transférées aux juridictions militaires. C'est qu'il y a une incidence sur le niveau de détention, le nombre de détenus. Les prisons dans l'Orkivu en Ituri sont en train aujourd'hui de craquer. Donc, le nombre de détenus en situation de détention préventive est très très élevé, ce qui pose problème. On essaie effectivement que des rectificatifs seront posés dans le sens des actions qui ont été déjà prises par la ministre de la Justice en vue d'améliorer cette situation-là, ce qui évidemment ces situations intenables. Il faut davantage aussi renforcer les effectifs de la justice militaire, mais aussi rendre effectif la loi sur les compétences partagées qui donne aux cours d'appel la compétence pour connaître des catégories de crimes internationaux qui concernent pour beaucoup les types de violations sur lesquelles nous avons travaillé, qui concernent les zones où nous avons des conflits. Ça permettrait davantage de renforcer et de relever le niveau d'administration de la justice en ce qui concerne ces aspects que j'ai évoqués et notamment de renforcer les efforts de lutte contre l'impunité. Et enfin, l'ouverture des consultations nationales suite à l'engagement pris par le chef de l'État est une excellente nouvelle. Nous devons accélérer ce processus pour permettre au Congo de confronter le passé, son passé marqué par de graves violations des droits de l'homme et du droit international et humanitaire. Et en cela, y compris le rapport MAPIM, et ainsi que tous les rapports qui sont venus s'y ajouter. Je rappelle que nous n'avons pas arrêté l'horloge en 2010 ou en 2012 quand le rapport a été publié. Nous avons continué à documenter les situations et toutes ces situations-là méritent effectivement d'être ouvertes, discutées et les actions nécessaires soient prises en vue véritablement de rendre justice aux victimes et aux communautés, réparer, mais aussi créer des garanties de non-répétition pour véritablement éviter que de perpétuer le cycle de violence. Il nous faut engager les réformes. La réforme du secteur de sécurité est une partie non négligeable de ce qu'on appelle les garanties de répétition, parce qu'il faudra évidemment essayer de vérifier les antécédents et les acquis pour s'assurer que ceux qui sont dans les forces de sécurité sont véritablement ceux qui doivent y être et ceux qui sont véritablement qui ont le profil approprié, les compétences nécessaires pour protéger les personnes et leurs biens. Il faut aussi, dans le cadre de l'élargissement de l'espace démocratique, adopter les lois qui sont aujourd'hui pendant devant l'Assemblée nationale. Je parle de la loi sur la protection des défenses et des droits de l'homme, qui est très très attendue depuis de nombreuses années. La loi sur les manifestations publiques, qui est également un indicateur important de l'ouverture, du renforcement et de la consolidation de l'ouverture de l'espace démocratique. La loi sur l'accès à l'information. Et surtout, et enfin, l'avant-proposition de loi qui est en train d'être discuté sur la répression des messages et des discours incitant à la haine qui est porté par un député que vous connaissez. Il faut aussi soutenir les mécanismes de résolution des sources du conflit. Et en cela, j'ai vu effectivement saluer les efforts qui sont en train d'être pris en ce qui concerne la réforme foncière, mais j'espère effectivement que cette réforme-là permettra véritablement d'adresser les conflits fonciers qui aujourd'hui sont pour beaucoup à l'origine de beaucoup de conflits que nous avons sur le terrain. Il s'agit aussi de rétablir l'autorité de l'État dans les zones où la présence de l'État est très très faible et des zones où des groupes armés, des groupes et des milices armées établissent une administration de fait, ce qui, du point de vue du droit international et humanitaire, pose problème et les rend comptables du respect d'un certain nombre de droits dans ces zones-là. Et il est important, véritablement, de soulager les populations qui sont sujettes à des intimidations, à des privations de toutes sortes, à des atteintes à leur intégrité physique, à leur vie, mais également, surtout les filles, les femmes et les enfants, recruter de force pour rejoindre des groupes armés, mais surtout les filles qui sont victimes de mariages précoces et de violences sexuelles dans un silence total, parce qu'évidemment, l'accessibilité à ces zones-là pose problème.
Directeur Abdulaziz Thioy, merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bonne et heureuse année encore.
Merci beaucoup.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation et supervision Alain Irung Mouchige, coordination Michel Kifine Dangoy. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission et bien d'autres numéros de grande interview en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la radio de la paix.